Donc, on étudie les paraboles. On se souvient que les paraboles, ce sont des histoires que Jésus a racontées, là, mais ce n'est pas seulement Jésus qui a raconté des paraboles. Il a utilisé une manière d'enseigner qui existait déjà à l'époque, là, qui consiste à utiliser une histoire fictive, mais à propos de choses de la vie de tous les jours. C'est jamais une histoire à propos d'une personne en particulier, un fait vécu, là. Mais c'est une histoire qui est très plausible, mais c'est fictif. Mais c'est dans le but de raconter ou d'expliquer un phénomène qui, lui, est réel et qui est habituellement spirituel ou céleste ou divin. Donc, on utilise des choses terrestres pour expliquer des choses célestes. On a commencé à étudier certaines paraboles, puis là, aujourd'hui, on va commencer à étudier le riche insensé, ou en québécois, on pourrait dire le riche stupide. Ouais. Et on va aller lire tout de suite Luc 12, de 13 à 21. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Mais qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit une parabole. « La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour ramasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc, l'homme riche ici, il représente qui? Parce que Jésus n'est pas en train de parler d'un homme riche en particulier là, qui a croisé. Il parle en général, mais ça représente qui, ça, selon vous?
Chacun de nous autres.
Oui, ça peut être n'importe qui, oui. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet homme-là? Il est avare ou il est cupide. En fait, il se préoccupe de sa situation financière. C'est ça qui l'occupe, là. Il pense à qu'est-ce qu'il va faire. C'est toute sa vie, là. Son argent, ses biens. Donc, on peut dire que c'est toute personne qui est préoccupée par ses finances. Puis l'autre personnage dans la parabole, c'est Dieu qui lui parle. C'est qui est représenté par Dieu? C'était pas une vraie question. En fait, c'est Dieu lui-même. Ça peut être la parole. C'est le Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu. OK. Puis c'est quoi les vérités qu'on trouve dans cette parabole-là? Pas nécessairement comment appliquer la parabole, mais qu'est-ce qu'on trouve de premier niveau, là? Ceux qui ont écouté la parabole à l'époque, là, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est quoi les vérités qu'on y trouve?
De s'amasser des richesses présentement, ça sert à rien parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir.
De mettre tous ses efforts à amasser de l'argent, à se faire des finances, ou pour certains, mettons, se mettre tous leurs efforts pour leur retraite, puis peut-être qu'ils ne s'y rendront jamais. Bien, c'est ça qui est présenté. C'est qu'il est insensé de mettre son espérance dans ses biens, puisque la vie peut s'arrêter à tout moment. Si on savait exactement quel jour, quelle heure, là, quelle date on allait mourir, là, ça changerait toute notre façon de voir les choses. Là. On prendrait l'assurance vie juste avant de mourir. Ouais. Non, c'est vrai. Puis on s'en ferait pas. Oui, et les choses futiles, ben là, on s'y préoccuperait moins. Là. On serait pas toujours en train de penser à notre prochaine augmentation de salaire ou je devrais-tu changer de job parce que là, je pense que je vais plafonner dans 10 ans. Bon, c'est correct d'y penser, là. Que ça occupe toutes nos pensées. Si on savait, mettons, alors je vais mourir dans 5 ans, ben, les choses qui vont arriver à ma retraite, là. Mais Dieu, il regarde ça de son point de vue, puis il voit les hommes qui se démènent. C'est insensé, là.
Et dans ce cas-ci, c'est pour son espérance à lui. Il fait beaucoup référence à son être à lui, tu sais, il pense à lui.
Ah, oui, ça c'est.
De sa famille, je fais mention des gens qui l'entourent, d'aider son prochain, si c'est lui. Il va amasser, il va mettre de.
OK. Mais ça, c'est une autre vérité qu'on trouve dans la parabole, c'est que celui qui amasse des biens pour lui-même, qui pense à lui-même, là, il ne fait pas quoi aussi. Là. C'est quoi le contraire? Là? Mais direct dans la parabole, là, ce qu'on voit comme vérité, c'est celui qui s'occupe à ramasser des richesses pour lui et n'est pas en train d'en ramasser pour Dieu, pour le royaume des cieux.
T'sais, c'est pas le fait d'avoir pensé à l'avenir puis d'avoir pas gaspillé ses récoltes, de les avoir engrangées, c'est pas ça. C'est qu'il les a engrangées juste pour lui, puis il met toute sa confiance là-dedans. Il pense qu'il n'y a aucun problème pour l'avenir.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est. Jésus, il montre, dans la parabole, il montre le cœur de la personne. Il est couché le soir, puis il réfléchit à ça, là. C'est ça qui l'occupe, qui occupe ses pensées. Mais pendant qu'il est occupé à penser à ça, il ne pense pas à Dieu. OK, puis c'est dans quel contexte que Jésus a raconté cette parabole-là?
Il y a quelqu'un qui voulait qu'il dise à son frère qu'il ne voulait pas partager l'héritage de son père avec lui. Lui aussi, ça, c'était sa priorité. Hey, moi, mon argent, je la veux.
Oui, c'est ça. C'était comme un conflit familial, une guerre de succession. Là. Malheureusement, ça arrive souvent, ça. Ça veut dire qu'il y avait, un héritage qui devait être légué, puis il y a un des fils qui voulait le garder pour lui tout seul. On ne sait pas si la demande était justifiée ou non, mais en tout cas, il y avait une guerre, il y avait un conflit. Puis qu'est-ce que Jésus a vu? Est-ce qu'il leur répond, c'est « Est-ce que je suis votre juge? » Mais qu'est-ce qu'il a vu dans leur cœur? Oui, la cupidité, c'est ça. Oui, dans les deux. Ils sont en présence de Jésus, là. Jésus qui donne l'enseignement, qui est en train de donner le message de la bonne nouvelle. Il est la source de la vie, là. Puis eux, au lieu d'écouter ce message-là, ils veulent se servir de Jésus pour venir faire le partage de leur richesse, là. Mais pendant qu'ils sont concentrés à ça, à leur petite guerre, là, ils bénéficient même pas de la présence de Jésus avec eux. Donc, pendant que les frères se disputent les richesses terrestres, bien, ils ne recherchent pas des richesses pour Dieu. C'est pour ça que Jésus leur répond par cette parabole-là. Jésus dit aussi dans Matthieu, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Tu peux même pas dire, pendant une partie de la semaine, je sers Dieu, puis l'autre partie de la semaine, je sers ma carrière et mes finances. Ça ne marche pas, là. C'est un ou l'autre là, qui domine ta vie. C'est Dieu ou Mammon. Mammon, c'est le nom d'un faux Dieu là, qui représente l'argent, la prospérité. Donc, c'est un ou l'autre. C'est pour ça que Jésus il est si tranchant. Il dit, pendant que vous êtes occupé à être avare, à être cupide, vous ne servez pas Dieu. Même si vous pouvez dire que vous le servez, vous pouvez vous pavaner, vous êtes hypocrite. Donc, ça, c'est des vérités assez de base, là. C'est-à-dire assez accessibles. Tous peuvent comprendre ces vérités-là. Puis sûrement que les deux frères, ils ont compris, là. Jésus les a comme donné un coup de poignard, là. Mais, comme on l'a vu, les paraboles ont deux buts. Ils ont un but d'expliquer des vérités, mais ils ont un but aussi de toucher et d'enseigner les disciples, donc ceux qui peuvent comprendre, ceux qui ont des oreilles pour entendre, vont être capables de comprendre souvent un deuxième, un troisième niveau dans la parabole, vont savoir comment l'appliquer dans leur vie, puis ça va avoir un effet dans leur vie. Et ça, c'est seulement les croyants qui peuvent comprendre ça. Puis Jésus donne l'application à ses disciples. Si on continue au verset 22, c'est suite à la parabole. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas s'inquiéter? Le contraire de s'inquiéter, c'est de faire confiance à... Oui, soumettre nos besoins à Dieu. C'est vrai. Il va s'occuper du reste. Oui?
Le contentement.
Oui, le contentement. Parce que l'homme dans la parabole, là, il avait de l'air en paix quand même, là. Il disait, je vais faire des greniers, après je vais pouvoir dire à mon âme, waouh, tu peux manger, tu peux boire. Puis, il semblait avoir une certaine paix là, quand même. Là. Pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas? Mais c'est ça, ne pas s'inquiéter, c'est plus que ne pas être stressé. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être quand même assez en paix. Là. Quand tu as 1 million de dollars dans le compte de banque, tu n'es pas très stressé par la vie. Il y a l'aspect de lâcher le contrôle, lâcher prise. Si tu laisses les guides à Dieu, waouh. Surtout quand tu as beaucoup à perdre, là, tu peux commencer à stresser, mais. Si tu fais confiance à Dieu, il se croit en sécurité, mais en fait, il ne sait pas là, qu'est-ce qui l'attend. Si on regarde le contraire, celui qui n'est pas en train de s'amasser des richesses pour lui-même, là, celui là, qui ne sert pas ses propres richesses, mais qui sert Dieu, il va faire quoi? C'est quoi le contraire? Oui, dépendre de Dieu. Donc, il y a le contraire de vouloir garder le contrôle. Oui, il y a l'aspect de la confiance. Mais il y a autre chose aussi. Là. OK, mais pendant que tu recherches le royaume de Dieu, tu n'es pas en train de rechercher... ton propre royaume. Fait que tes yeux arrêtent d'être centrés sur ton propre nombril. Ne pas s'inquiéter, c'est aussi arrêter d'être égoïste. Mais c'est normal d'être stressé. On a des exemples dans la Bible, il y a même des psaumes où on voit David ou d'autres psalmistes là, qui crient, puis ils ont peur, là. Ils ont peur à leur vie, puis ils se tournent vers Dieu, ils crient. Mais ça, c'est un peu comme une angoisse. Même Jésus a été angoissé avant de mourir, là. Mais ça, c'est une réaction normale, c'est un sentiment. Mais l'inquiétude qui est parlée ici, c'est plus que ça, là. L'inquiétude, c'est une inquiétude qui est orientée vers soi-même. Tu as peur de perdre quelque chose, tu as peur soit de perdre le contrôle, tu as peur de perdre tes richesses. C'est vraiment une peur égoïste. Si on voit un petit enfant, là, dès la naissance, il est égoïste. Il veut un jouet, il veut de la nourriture. Puis si tu arrives pour y enlever son jouet, là, il est inquiet. Mais c'est une caricature, mais même rendu adulte, on est comme des enfants, on est inquiet de perdre nos choses. Mais c'est encore un sentiment égoïste. Ce qui détermine, ce qui fait la maturité d'une personne, c'est que tu commences à être de moins en moins égoïste. Tu commences à penser aux autres, tu commences à penser à Dieu. Celui qui ne s'inquiète pas réellement, il est capable d'être content, le contentement. Parce que c'est quelqu'un qui a des pensées égoïstes, qui s'inquiète, il ne sera jamais content de ce qu'il a. On ne peut jamais être satisfait, il y a toujours quelque chose d'autre. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont en paix, mais ils tombent malades, puis là, le monde vient de s'écrouler. Paul, c'est comme s'il citait Jésus là, dans Timothée. Il dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété. La piété, c'est de servir Dieu. Si l'on se contente de ce que l'on a. Donc, ça va avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les maux, c'est le mal au pluriel, là. Tous les péchés. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Donc, le désir de s'enrichir, en réalité, c'est l'égoïsme, là, d'être assoiffé, d'être cupide, avare. Mais on a tout un pourcentage là, de ça. Mais celui qui se laisse aller à ça, ça vous l'apporte à toutes sortes de tentations. Il tombe dans toutes sortes de péchés. On peut tomber dans le mensonge, dans le vol, dans la jalousie, dans la médisance. Puis ici, c'est intéressant, là, qu'il dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Peut-être dans votre traduction, c'est écrit « être une racine de tous les maux. » J'ai déjà entendu souvent des gens qui insistent sur le fait que c'est pas la racine, c'est une racine, parce qu'il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'en grec, j'ai pris la peine de le souligner, là, parce qu'en grec, le mot « la » n'est pas là. Hein? C'est juste écrit « L'amour de l'argent là, est racine de tous les maux. » Le « la » n'est pas là, sauf que c'est superflu, l'article en grec. C'est-à-dire que quand on traduit, on voit selon le sens de la phrase si c'est défini ou si c'est indéfini. C'est des exemples où est-ce qu'il n'y a pas l'article, justement, là, puis c'est quand même défini. Quand Jésus demande quel est le premier de tous les commandements, en grec, c'est juste écrit quel est premier de tous les commandements. Donc, si on voulait traduire littéralement, il faudrait dire quel est un premier de tous les commandements. Bon, c'est bien que Jésus veut dire le premier, parce qu'il dit de tous les commandements. C'est à cause qu'on dit de tout. Que c'est forcément celui qui est avant, c'est forcément le. Il est forcément défini. Parce que si c'est juste un commandement parmi d'autres, et qui est parmi certains qui sont les premiers, mais il n'est pas le premier là, s'il y en a un autre qui est aussi fort que lui, là, ou peut-être plus fort. C'est sous-entendu que si tous les autres commandements sont inférieurs à celui-là, ou secondaires, ça veut dire que lui, il est le premier. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est un maître de tout. Il faudrait traduire littéralement, mais c'est sûr qu'il est le maître de tout. Tu ne peux pas être juste un maître parmi d'autres maîtres de tout, parce que tu n'es pas maître de l'autre maître à côté. Là. Si tu es maître de tout, ça veut dire que tu es le maître. Tu n'as pas le choix. Là. C'est pour ça qu'on met le. Ou le Dieu vivant qui est un sauveur de tous les hommes. Bien, un sauveur de tous les hommes, c'est forcément le sauveur. Mais c'est évident qu'on met le. Là. Si c'est juste un sauveur, on dirait un sauveur des hommes ou un sauveur pour les hommes. Mais si c'est un sauveur de tous les hommes, ça veut dire que c'est le seul. C'est sous-entendu. Ou c'est peut-être la manière de penser en grec, là, mais c'est sous-entendu. Quand le reste de la phrase, c'est « tout », c'est parce que celui dont on parle, il est le seul. Ou il est le plus grand, ou il est le plus élevé. Que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Ça veut dire que toutes les occasions de faire du mal, toutes les actions mauvaises, ont pour racine l'amour de l'argent. Ça veut dire que c'est la racine de tout. Là. Mais c'est pas nécessairement de l'argent liquide là, ou une carte de crédit ou... c'est tout ce qu'on veut posséder. C'est la soif de richesse. Dans le fond, c'est l'égoïsme. C'est encore de vouloir servir soi-même plutôt que de servir le seul vrai Dieu. Mais ça, c'est la cause de toutes les... C'est ce qui a fait tomber même Satan, on suppose. On n'a pas beaucoup de détails, mais il a voulu avoir ce que Dieu avait. C'est ce qui a fait tomber Adam et Ève. Là. Il leur a offert quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avoir, puis finalement, ils le voulaient. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment porter attention. Est-ce qu'on est assoiffé des richesses de cette terre ou on est prêt à se contenter de ce qu'on a pour servir Dieu? Mais est-ce que cette parabole-là concerne seulement ceux qui sont, de manière évidente, cupides ou avares? Non, ça nous concerne tous. On a déjà donné des exemples, mais est-ce que vous voyez d'autres manières concrètes qu'on peut appliquer cet enseignement-là? Mais est-ce qu'on peut juste, à partir d'aujourd'hui, dire, bon, ben, je cesse de convoiter? Ah non, on désire toujours quelque chose. C'est soit qu'on désire des choses pour nous, ou on désire Dieu, mais on ne peut pas arrêter de désirer. Ça se peut pas, là. Ça, c'est quand on va être mort, là. Puis même, on va continuer, là. Paul, il dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être riches. Non, c'est pas ça. Mais de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, qu'on peut perdre n'importe quand, mais de les mettre en Dieu. Donc, c'est pas juste d'arrêter d'espérer, là. C'est de transférer ça en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en œuvres bonnes, qu'il ait de la libéralité, de la générosité, et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Donc, c'est concret, là. C'est pas juste quelque chose que, dans notre cœur, ça se traduit par des actions concrètes. Qu'est-ce que c'est que de s'amasser des trésors pour Dieu, de chercher les richesses pour Dieu? C'est des choses concrètes, là. C'est de faire le bien, de faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, aider son prochain. C'est quoi ça, la libéralité? Ouais, c'est proche de la générosité, là. C'est donner sans contrainte, sans retenue, sachant que Dieu pourvoit. Et Dieu le promet. Il y a une foule de promesses là, qui montrent que plus on est prêt à donner pour son royaume, en temps, en argent, en ressources, en soutien, en support pour les autres, Dieu y fournit, lui. Il ne mettra pas de limite à notre libéralité, à notre générosité. On a un devoir d'être des bons administrateurs aussi des biens que Dieu nous donne, pour bien gérer, là. Être généreux, ça ne veut pas dire de s'endetter non plus. Paul le dit aussi dans Corinthiens. Puis ce qu'on peut juger, ce qu'on peut chercher à évaluer, c'est qu'est-ce qui nous motive, là. Est-ce qu'on retient quelque chose parce qu'on nourrit une inquiétude ou un désir de garder le contrôle ou de s'enrichir? Si c'est juste ça, ben on devrait laisser aller, là. Mais on peut sonder notre cœur. Puis des fois, on peut avoir de la misère aussi, mais je lisais cette semaine le psaume 139, puis David, il demande à Dieu, « Sonde mon cœur et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. » Donc, des fois, on manque de sagesse même pour s'auto-évaluer. Mais il dit dans Jacques, c'est celui qui manque de sagesse qui la demande. Puis Dieu nous éclaire. Dieu nous montre c'est quoi le bon choix à faire. Mais ça vaut la peine parfois de s'arrêter puis de réfléchir à notre situation, à nos projets. Parce qu'on peut pas juste se comparer avec la société puis dire, ah ben, je suis un peu moins pire que la société. La société est tellement loin, là. Elle pense pas du tout à Dieu. Elle est égoïste à 100%, là. Donc, ce qu'on doit se comparer, c'est au standard de Jésus. Puis il y a plein de choses, là, que, là, on va être prêt à changer dans notre vie. Même si les gens du monde vont dire, ben, t'es complètement fou. Notre standard est différent, là. Mais ça vaut la peine de s'auto-évaluer. Des fois, il faut revenir en arrière, même sur certaines décisions. Mais ceux qui, une fois que ça va bien, oublient Dieu, ben, Dieu, il les laisse pas, là. Si c'est des vrais chrétiens, il va leur donner une autre épreuve qu'ils vont, se rappeler de lui, là. À un moment donné, là, quand ça fait 10 épreuves de suite, ben, OK, je pense, j'ai compris. Mais Dieu, il veut nous amener à une relation où est-ce que on garde la flamme pour lui, là, pendant une relation quotidienne. Puis, ce qui va un peu avec ça, là, c'est la parabole des deux serviteurs. On la trouve à deux endroits. On va aller lire dans Matthieu 24, 45. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure où qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis on va aller lire dans Luc. Vous pouvez peut-être garder un doigt dans Matthieu. Dans Luc, Jésus raconte ça, c'est pas longtemps après qu'il avait raconté la parabole de tantôt, là. Luc 12, 42. Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. » La situation d'un esclave principal, je ne sais pas quel nom que ça portait, là, mais dans les serviteurs, ceux qui étaient assez riches avaient l'un de leurs serviteurs qui mettait comme à la tête de leur maison. Comme on parlait de Joseph tantôt, là, c'est un exemple. Mais même au temps de Jésus, ça se faisait. Ouais, c'est comme un contremaître. Mais lui-même était esclave du maître, mais il avait la charge. Il remplaçait le maître en son absence. Donc, quand le maître partait en voyage, celui qui s'occupait de la maison, c'était l'esclave principal. Il avait autorité sur les autres esclaves. Donc, quand il parlait, c'était comme au nom du maître. Il veillait à nourrir les autres esclaves. Donc, c'est lui qui s'occupait de prendre soin. Comme ça, les esclaves pouvaient commencer à vaquer. Mais ils pouvaient continuer à vaquer à leurs occupations. Puis lui, il veillait à les nourrir pour qu'ils puissent continuer à travailler. Puis il leur donnait des tâches aussi, mais un peu comme un contremaître. Et parfois, le maître s'absentait longtemps. C'est pour ça que l'histoire que Jésus raconte, c'est plausible. Ça sonne familier à ceux qui l'entendent à l'époque. Des fois, le maître, il part puis, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il sait qu'il y a un esclave principal qui s'occupe de tout. Il part, puis ça peut prendre du temps avant qu'il revienne. Et là, on voit que l'esclave qui est mauvais, le serviteur mauvais, il se met à maltraiter les autres serviteurs à côté de lui. En quoi est-ce que c'est grave? Bon, on sait que c'est mauvais de maltraiter les gens. Mais en quoi c'est grave? Pourquoi le maître, quand il revient, il le met en pièces? Puis si vous vous placez dans les souliers du maître, pourquoi il est fâché? Ben parce que son esclave a désobéi. Ben, d'une manière naturelle, d'une manière humaine, là, pourquoi on serait fâché? Les autres esclaves, là, c'est comme la propriété du maître, c'est ses biens. C'est comme si quelqu'un allait graffiner une porte de char neuf. Ouais, c'est à l'époque, en tout cas, les esclaves, c'était les biens du maître, ça lui appartient. Et s'il y a un de ces esclaves qui est en train de maganer ses biens, là, il est supposé d'en prendre soin, comme dit Hélène. Au lieu d'en prendre soin, il les maltraite. C'est comme s'il attaque le maître directement, là. Il attaque sa propriété à lui. Oui? Bon, ça, c'est l'autre aspect. C'est en quoi c'est grave de manger, de boire et de s'enivrer. C'est un peu comme du vol. C'est que lorsqu'il fait ça, il le fait au détriment du maître. Il n'est pas en train d'enrichir le maître. Il n'est pas en train de le faire profiter. Au contraire, il est en train de lui causer des dépenses. Mais c'est ça, il le fait au dépens des biens du maître. C'est pour ça que c'est grave. Donc, c'est quoi les vérités dans cette parabole-là? Ce sont les principes généraux. C'est que le jour des comptes va survenir à l'improviste, on ne sait pas c'est quand. Puis ça va arriver pour tous les serviteurs de Dieu. Les bons comme les mauvais, le jour des comptes va arriver. Puis personne ne sait c'est quand. Mais je pense que c'était évident pour ceux qui écoutaient la parabole, là, que c'est évident que le maître, c'est Dieu. Puis les serviteurs, ben, c'est nous. Un jour, on va avoir des comptes à rendre à Dieu, mais on ne sait pas c'est quand. Le jour du jugement, le jour des comptes. Là. Ça va arriver à l'improviste. Personne ne sait c'est quand.
Les deux paraboles sont complémentaires. L'autre, c'est les morts. La deuxième, c'est Dieu qui va arriver. C'est deux façons. La fin peut venir.
Mais... C'est ça. Ça montre notre méconnaissance de l'avenir. Qu'est-ce qui arrive au serviteur qui agit bien, qui est fidèle? Oui, il est récompensé. Il est même honoré. Il est mis à la tête de... Et puis, qu'est-ce qui arrive à celui qui est mauvais, le méchant serviteur? Il va être puni. Ce ne sera pas juste... Il va se faire gronder, là. Il va être puni. Puis même, on peut voir, d'après ce qui est imagé ici, là, mis en pièces, ça veut dire que c'est une punition sévère, terrible. Puis à qui s'adresse cette parabole? Mais ici, on voit que Jésus a raconté deux fois cette parabole-là, au moins deux fois, parce que pendant 3 ans, il marchait puis enseignait partout dans toutes les villes, les villages. Il l'a peut-être raconté plusieurs fois, là, dans différents contextes, mais il nous est rapporté 2 fois. Puis les 2 fois où ce qu'elle nous a rapporté, il s'adressait à tous, mais plus particulièrement à ses disciples. C'est pour ça que même Pierre s'est posé la question. Coudonc, c'est à qui tu parles, Jésus, là? Nous, on te suit pourtant. Mais en tout cas, on va le voir plus loin. Mais c'est dans 2 contextes différents. Mais il est en train de parler à ses disciples, ou en tout cas à la foule qui le suit. Dans Matthieu, Jésus vient juste de dénoncer l'hypocrisie des pharisiens. Il est à la fin de son ministère. Là. C'est pas longtemps avant qu'il se fasse arrêter. Il était dans le temple et il a dénoncé les pharisiens, disant qu'ils sont hypocrites. Ils se présentent comme des serviteurs fidèles de Dieu. En réalité, ils sont hypocrites. Leur cœur n'est pas là. Puis là, après, il est sorti du temple, puis il est allé sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Puis c'est là qu'il prophétise sur la fin des temps, sur son retour. Son retour que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul le Père le sait. Puis il les exhorte à veiller. Veillez, la fin n'est pas encore arrivée, là. Le dernier jour n'est pas encore arrivé. Veillez. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que je vais revenir. Puis c'est après ça qu'il leur raconte la parabole. Donc c'est dans le contexte qu'il est dans le particulier avec ses disciples. Il annonce les choses de la fin. Il raconte la parabole du bon serviteur, du mauvais serviteur. Puis il vient de dénoncer l'hypocrisie des pharisiens. Puis, c'est quoi le sort du mauvais serviteur? Si quelqu'un est encore dans Matthieu 24, le dernier verset de la parabole, verset 51, il est mis en pièces, mais son sort est partagé avec qui? Dans le fond, il est en train de dire le mauvais serviteur là, parmi vous, parmi mes disciples. Il va subir le même sort que les hypocrites que je viens de dénoncer. Vous êtes scandalisés par l'attitude des pharisiens, mais tout mauvais serviteur de Dieu va subir le même sort que ces pharisiens-là.
Il y aura des pleurs et des grincements.
Oui, donc c'est vraiment une indication de l'enfer. Dans Luc, c'est un contexte différent. Jésus venait aussi de dénoncer l'hypocrisie des pharisiens, mais c'est quand il était en voyage vers Jérusalem. Mais il venait de dire que « Malheur à vous, pharisiens ». Plus tard, il est avec ses disciples et il dit « Prenez garde au levain des pharisiens, là. C'est de l'hypocrisie ». Après avoir dénoncé les pharisiens, là, il est avec une grande foule et avec ses disciples. Il les exhorte à faire confiance à Dieu. Ça ressemble un peu à Matthieu ici. Là. Il dit « Regardez les oiseaux, là. Ils n'ont pas besoin de semer, moissonner ». Donc, il les exhorte à faire confiance à Dieu. Ensuite, il les exhorte à veiller avec deux petites paraboles. On peut les voir dans Luc 12, 35. « Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc ici, c'est deux paraboles. Une petite parabole, c'est le maître qui est parti à un mariage, aux noces. Ses serviteurs attendent qu'il revienne, mais il y en a finalement qui vont se coucher. Mais ceux qui veillent et qui l'attendent, bien, ils sont récompensés. Puis pour montrer que Jésus peut revenir n'importe quand, bien, il y a l'autre petite parabole qui dit... Un maître de la maison, s'il savait quand le voleur va arriver, bien, il va se préparer. Mais personne ne sait quand est-ce qu'on va se faire voler. Mais de la même manière, Jésus va revenir comme un voleur. À cause de cela, bien, veillez. Mais ça amène Pierre à se poser la question. Au verset suivant. Mais Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou à tous? Parce qu'il se dit, bien, nous, on est tes disciples. On te suit, là. Ça fait des années, là. Tu veux qu'on réfléchisse à la possibilité qu'on soit pas tes serviteurs fidèles. On l'est forcément. C'est à nous que tu parles ou tu parles à ceux qui ne te suivent pas. Jésus leur répond par la parabole qu'on a lue tantôt. La parabole des deux serviteurs. Le serviteur qui est fidèle et le serviteur qui est mauvais. Puis dans Luc, à la fin, il dit « Le sort du mauvais serviteur est avec les infidèles. » Les paroles de Jésus sont légèrement différentes que dans l'autre fois où il l'a raconté. Le sort n'est pas avec les hypocrites, le sort est avec les infidèles. Mais c'est très proche. Parce que infidèle, ici, ça n'indique pas que c'est un serviteur qui avait commencé à bien agir, puis tout à coup, il a abandonné. C'est pas comme un serviteur qui a finalement délaissé son maître. C'est un serviteur qui a toujours été infidèle. C'est dans le sens incroyant. Parce que la foi et la fidélité, c'est le même mot. En grec, tout ça, les concepts sont mélangés, là. En anglais, c'est unfaithful, qui peut vouloir dire infidèle, mais c'est dans le sens qu'il n'a pas la foi, là. Qui est incroyant. D'ailleurs, dans la parabole, il ne s'agit pas d'un serviteur qui est fidèle et qui devient mauvais. C'est un ou l'autre. D'ailleurs, il s'agit d'une seule personne. Il n'y a pas deux serviteurs en même temps. C'est soit que c'est un serviteur qui est fidèle jusqu'à la fin, ou c'est un serviteur qui est incroyant et qui va finir par se dénoncer en maltraitant ses compagnons.
Si Richard, j'ai regardé infidèle, ben hypocrite. Tout à l'heure, on faisait aussi référence à hypocrite, là. Ce terme dont le sens primitif est acteur, comédien, désigné dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas, particulièrement en affectant des allures religieuses.
C'est ça. En réalité, il ne croit pas pour vrai. C'est un incroyant. Mais quand on dit hypocrite, on met plutôt l'emphase sur son intention. Il veut paraître comme un serviteur fidèle. C'est naturel qu'il se pose la question, là. Ça veut-tu dire qu'un jour, je pourrais être condamné, là, avec les pleurs et des grincements dedans, là, parce que je n'ai pas fait assez. Après avoir raconté la parabole, Jésus, après, il apporte une précision pour montrer qu'en fait, les serviteurs de Dieu, c'est tous les hommes. C'est même pas seulement ceux qui sont réellement et ceux qui font un semblant de l'être, c'est même ceux qui n'en sont même pas conscients. Le maître est le maître de tout. Donc, tous les hommes sont ses serviteurs, qu'ils en soient conscients ou non, qu'ils soient de bons serviteurs ou des mauvais. Il dit, après la parabole, là, dans Luc 12, 47, il dit, « Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, il sera battu d'un grand nombre de coups. » Sa punition va être grande, parce que lui, il savait qu'il était son maître, mais il n'a rien fait. Il n'a pas agi selon sa volonté. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu, la volonté de Dieu, la volonté du maître, et aura commis des actes dignes de châtiment, il sera battu lui aussi, mais de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage celui à qui l'on a beaucoup confié. Ça reste énigmatique, ces paroles-là, là, parce qu'on ne comprend pas, on dit, ben, les deux s'en vont en enfer. Comment un peut plus puni que l'autre, mais il semble y avoir des degrés de punition. Là. Il y en a un qui va, il va grincer plus des dents que l'autre.
Donc, je veux bien comprendre, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera beaucoup à celui qu'on a beaucoup confié. Pourquoi dans la différence entre confier puis donner?
Bon, ici, c'est une phrase un peu du type proverbe là, ou psaume. Là. C'est comme un parallèle. Bien, demander puis donner, c'est dans le sens des biens. Là. Puis exiger à celui à qui on a beaucoup confié, c'est au niveau des tâches. On lui a confié des tâches, on lui a confié le soin de ses frères. On peut dire qu'on lui a donné aussi. Mais c'est juste de manière de... C'est un parallélisme. Là. C'est intéressant de voir ici que Jésus n'a pas dit ce verset-là à tout le monde. Il ne l'a pas dit aux pharisiens. Il l'a dit à ses disciples. Parce que les disciples de Jésus ont une connaissance. Là. Ils ont accès là, à la parole de Dieu là, faite chair. Là. Un faux chrétien qui a goûté à la vie communautaire dans l'Église, on va le voir dans Hébreux aussi, ça. Et qui a goûté à ça, là, qui a plongé ses yeux dans la Bible, là, qui a eu accès à ça, là, puis qui le rejette, qui est un serviteur mauvais finalement, là, et ça va lui coûter cher. Là. En tout cas, c'est un blasphème. Mais c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y avait une ignorance là, à l'époque où Jésus a été crucifié. Après, on a compris. Là. Si le même acte s'était reproduit dans l'Église, ça aurait été effroyable. Là. C'est pas que c'était excusable, mais c'était... Dieu comprend ou tient compte de l'ignorance, parce qu'il est juste. Il y en a beaucoup qui voient cette parabole-là comme adressée, premièrement, comme aux pasteurs, aux anciens dans une église. Dieu leur a confié le soin de son troupeau à lui, c'est pas leur troupeau. S'ils n'en prennent pas soin ou qu'ils négligent ça, qu'ils vont faire la fête pendant ce temps-là, ils vont payer cher. La responsabilité est plus grande. Mais dans un sens, chacun de nous, on a une responsabilité sur d'autres. Là. Un père de famille, une mère de famille a une responsabilité sur sa maison. On a tous des degrés de responsabilité, des gens qui sont sous notre influence, que Dieu nous confie. Il nous confie des biens, il nous confie des tâches dans l'Église aussi. On a la responsabilité de bien la mener. Là. Donc, dans le fond, ce principe-là concerne tout le monde. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Là. C'est pour ça, même dans Jacques, qui dit que ne soyez pas plusieurs à vouloir enseigner. Là. Vous allez juger plus sévèrement. Donc, à qui s'adresse cette parabole? Bien, vous l'avez dit, c'est à tous. D'ailleurs, dans Marc 13, où est-ce que, justement, Jésus... C'est un peu un parallèle à Matthieu 24. Là, Jésus, il parle de son retour qui va arriver là, à l'improviste. Puis à la fin du chapitre, il conclut en disant, « Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Parce que dans le fond, c'est un message que seulement les disciples peuvent comprendre, là, mais c'est un message quand même qui est envoyé à tous. Personne n'est excusable de cela. Le message est à tous. Et puis ce qu'il dit à tous, c'est « Veillez. » Puis en cela, bien, même les incroyants sont exhortés à croire. Et il y en a qui se sont convertis là, en entendant cela. Mais on comprend que c'est parce qu'il y avait des oreilles pour entendre. Là. C'est Dieu qui les a appelés. Mais c'est le message de Jésus. Là. Attention, je peux revenir n'importe quand. Là. Wow. OK, mais moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas prêt à rencontrer mon Dieu, mon Sauveur, ben, mon Créateur. Il y en a qui se convertissent en pensant à cela. Mais c'est adressé aussi à ceux qui sont déjà croyants. Donc, est-ce que ça nous concerne si on est déjà croyants? Oui. Dans Matthieu 25, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. » Et pourtant, ici, il est en train de parler juste à ses disciples. Comment on peut veiller? Ça veut dire quoi, ça? Il ne faut pas dormir. C'est en étant à son service, en œuvrant. Il y a un état actif. Ça peut être en lisant la parole, là, mais c'est une action. Là. On est occupé à son service. On peut se poser des questions, genre, est-ce que je suis, moi, un mauvais serviteur? Est-ce que ça se peut que je me fasse condamner? Oui. Mais ce n'est pas ça le but premier de Jésus. Là. Il nous montre l'état tragique de ceux qui ont été infidèles. Mais si on est croyant, Dieu va nous ramener, on va être fidèles jusqu'à la fin. Mais il veut utiliser justement cette exhortation-là, la crainte de Dieu qui est terrible et qui punit le méchant, pour que ça nous motive à veiller. Le résumé, dans le fond, c'est qu'il faut veiller. Il ne faut pas se poser la question philosophique, là. Jésus nous demande de veiller, d'être sur nos gardes. Michel, pourrais-tu terminer par un mot de prière?